Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, le réveil sonne. Oui, trop tôt, mais voilà, il faut se lever. J'espère en tout cas que vous allez bien ce matin. Peut-être êtes-vous un peu moins épuisé que celles et ceux qui ont arpenté la croisette et monté les marches du palais des festivals de Cannes.
Le tapis rouge flamboyant à Cannes, c'est parti pour 10 jours de cinéma au bord de la Méditerranée. La cérémonie d'ouverture du festival s'est déroulée hier soir. On sera sur place avec Laurie Choleva juste avant 6h. À la une, ce 18 mai, Julien.
Une question, à quoi va ressembler le gouvernement d'Elisabeth Borne? Penchera-t-il plus à gauche ou plus à droite? Suspense, fumée blanche attendue aujourd'hui ou demain?
L'actualité, c'est aussi ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Kiev.
Avec dans le box des accusés un jeune soldat russe qui a reconnu avoir abattu un civil ukrainien non armé. Il encourt la prison à perpétuité dans ce qui apparaît comme le premier procès pour crime de guerre depuis le début de l'invasion de l'armée de Poutine en Ukraine.
Et ce procès s'ouvre alors que le conflit est loin d'être terminé.
Peut-on juger sereinement un crime de guerre alors que la guerre justement continue de faire rage? N'est-ce pas prendre le risque d'un procès qui se transforme en outil de propagande? Autant de questions que l'on posera à 6h10 à notre invité.
Emmanuel Daoud est avocat pénaliste, il intervient à la Cour pénale internationale.
Au menu ce matin également, un célèbre roman du britannique Joseph Conrad, rebaptisé à l'occasion de sa réédition.
Un récit maritime publié en 1897, dont l'histoire se déroule sur le bateau Le Narcisse, publié sous le nom original The Nigger of the Narcissus, traduit jusqu'alors par Le Nègre du Narcisse. Le roman s'intitule désormais Les Enfants de la Mer.
Et ce mot lourd de sens a été effacé de la couverture, mais également dans la majeure partie du roman.
Oui, cette réédition n'est pas sans rappeler celle du célèbre roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres devenus ils étaient 10. Comment continuer à faire vivre des œuvres nées à une certaine époque sans offenser une partie du public? Faut-il effacer pour réparer l'histoire? On sera à 5h45 avec le sociologue Michel Vieborka.
Et puis votre partition?
5 jeunes chanteurs américains qui au milieu des années 90 vont bouleverser l'industrie de la musique pop. Quit playing games with my heart. Les Backstreet Boys ou l'essor du phénomène boys band dans la partition à 6h20.
Voilà, vous avez le programme. C'est le moment de se réveiller avec les Backstreet Boys et avec Anissa Haddadi. Bonjour Anissa.
Bonjour Julien, bonjour Omblin. Bonjour.
Petite fatigue là Anissa.
La clim,
ouais.
C'est la clim.
Ah oui, c'est la clim, ouais. ouais. Dit-elle avec l'écharpe du FC Sochaux autour de
du coup.
Il fait déjà très doux ce matin.
Oui, et la chaleur va monter d'un cran encore aujourd'hui. Ça sera la journée la plus chaude de la semaine. Ça risque même d'être suffocant avec déjà ce matin 11 à 18 degrés du nord au sud. On a 17 degrés actuellement à 5h sur Paris, c'est vraiment très doux, voire même très chaud déjà. Alors cet après-midi, comptez 32 à 35 degrés. C'est dans le sud-ouest qui va faire le plus chaud, entre la Nouvelle-Aquitaine, le centre-val de Loire, l'Occitanie. Plus à l'est, en Corse, sur la Côte d'Azur, la Provence, jusqu'en Auvergne et même jusqu'au Grand Est, jusqu'en Alsace, on aura un soleil de plomb toute la journée avec 26 à 34 degrés. Des Pays de la Loire à la région parisienne, en passant par la Normandie et les Hauts-de-France. Là, on a une matinée très ensoleillée. Et puis, ça va se gâter en fin de journée avec l'arrivée des orages qui seront parfois violents. 28 à 32 degrés entre les Pays de la Loire et la région parisienne. Et puis, en Bretagne. En Bretagne, il fait meilleur, 22 à 28 degrés. C'est ensoleillé ce matin et ça va nettement se couvrir avec des orages cet après-midi.
Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Le début du marathon à Matignon pour Elisabeth Borne. La nouvelle première ministre multiplie les consultations pour former au plus vite un nouveau gouvernement. Sa composition pourrait être annoncée dès aujourd'hui. La Finlande et la Suède, main dans la main pour déposer ce matin leur demande d'adhésion à l'OTAN. Une candidature commune pour deux pays étroitement liés. Nous serons à Helsinki avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Et puis la croisette pleine de paillettes. Ouverture hier soir du 75e Festival de Cannes avec un invité surprise, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Europe 1 y était, rendez-vous en fin de journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. À peine 24 heures qu'Elisabeth Borne est installée à Matignon, les coups de fil et les rendez-vous se multiplient déjà pour la nouvelle première ministre. Rencontre avec les députés de la majorité hier matin, suivie d'un déjeuner de plus de 3 heures avec Emmanuel Macron. Alexandre Chauveau, l'agenda de la chef du gouvernement semble bien chargé. Ce sera la même chose dans les prochains jours ?
Eh bien, la nouvelle hôte de Matignon va poursuivre les entretiens, physiquement ou par téléphone, avec de potentiels futurs ministres. Un travail supervisé de très près par Emmanuel Macron. Le nouveau gouvernement devrait ainsi être connu entre aujourd'hui et vendredi. Gouvernement qui pourrait être resserré, une quinzaine de ministres tout au plus, alors que les ministres délégués et autres secrétaires d'État devraient être nommés après les législatives. En attendant, Elisabeth Borne a trouvé son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, énarque et ancien directeur adjoint de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve à Matignon. Il était depuis 2018 directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Alors une fois son gouvernement nommé, Elisabeth Borne pourrait effectuer en fin de semaine un déplacement dans le Calvados, département où elle se présente aux législatives. Elle lancerait ainsi la campagne en tant que candidate, mais aussi comme nouvelle chef de la majorité. Viendra ensuite son premier grand chantier à Matignon, un plan anti-inflation qui pourrait être présenté début juin en Conseil des ministres.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et pour revenir notamment sur la campagne des législatives, Sonia Mabrouk reçoit ce matin à 8h13 Fabien Roussel, le premier secrétaire du Parti communiste.
Dans un peu moins de 3 heures à présent, à 8 heures précises, la Finlande et la Suède déposeront officiellement leur candidature pour rejoindre l'OTAN.
Objectif, se protéger de l'ogre russe en pleine guerre en Ukraine. Une demande formulée à deux, main dans la main, car la Suède et la Finlande sont étroitement liées, que ce soit par leur passé, leur culture ou encore leur politique de défense. À l'école suédophone de l'université d'Helsinki, le reportage de notre envoyée spéciale Europe 1, Caroline Baudry.
Dans la bibliothèque de la prestigieuse université finlandaise, Daniela, 24 ans, révise. Son livre est en suédois, sa langue maternelle. De nattes blondes encadre son visage, soulagée que les deux pays fassent un choix commun.
Le finnois et le suédois sont les deux langues officielles en Finlande. Alors on se sent connecté au suédois. Moi-même, j'ai beaucoup de famille là-bas et ma sœur étudie en Suède.
À l'étage, son professeur est fier de porter un prénom suédois.
Et ça veut dire petit bois de boulot.
Il a suivi l'actualité sur Internet, dans son bureau.
Comme il faut une candidature, il est beaucoup mieux de le faire ensemble. Nous pouvons nous entraider. Il suffit de regarder une carte pour comprendre. Il est bien beaucoup plus pratique si on fait partie de la même alliance. Il y a autre chose aussi. Ça peut relancer peut-être un sens de communauté et une coopération sur autre chose aussi.
Des journaux traînent sur les tables de l'école. À la une du courrier d'Helsinki, cette image, la Finlande et la Suède dans la même barque quittent l'étoile rouge, symbole de l'ex-URSS, pour rejoindre celle du logo de l'OTAN. Helsinki, Caroline Baudry, Europe 1.
Et en Ukraine, une première aujourd'hui. Un soldat russe jugé à Kiev pour crime de guerre. On retiendra son nom, Vadim Chichimarin. Âgé de 21 ans, il comparaît pour avoir tué un civil de 62 ans qui roulait à vélo. Il encourt la prison à perpétuité.
Et on va s'intéresser davantage à ce procès à 6h10 avec notre invité Emmanuel Daoud, avocat pénaliste au barreau de Paris et également à la Cour pénale internationale.
La Cour pénale internationale qui annonce un déploiement inédit. 42 enquêteurs et experts viennent d'être envoyés en Ukraine pour enquêter sur les crimes commis sur place. C'est la plus grande mission jamais déployée sur le terrain.
À peine adoptée, déjà largement contestée, on parle de l'autorisation du burkini dans les piscines municipales grenobloises.
L'opposition au conseil municipal a déposé un recours en justice hier après-midi. De son côté, Gérald Darmanin indique sur Twitter avoir donné instruction au préfet de l'Isère de, je cite, déférer laïcité cette décision pour annuler l'autorisation du port du burkini, une revendication portée par l'association Alliance Citoyenne contre laquelle une enquête est ouverte sur de potentiels fichiers illégaux et communautaires.
On va en Chine à 5h05 sur Europe 1, la Chine où Elon Musk et sa marque de voiture Tesla sont en panne sèche.
C'est pourtant à Shanghai qu'est implantée la plus grande usine automobile du monde, celle de Tesla qui assemble la moitié des véhicules vendus par la marque dans le monde, mais les ennuis s'enchaînent et se multiplient. Rappel, défaillance technique et Covid, une galère pour Elon Musk que nous raconte ce matin notre correspondant Sébastien Lebelzik.
C'était en janvier 2020, Elon Musk en personne remettait les clés de ses premières Tesla fabriquées à Shanghai à des acheteurs chinois. Toujours aussi exubérant, le milliardaire se lance dans une danse improvisée avant de vanter les mérites de la Chine, premier marché automobile de la planète, Elon Musk.
J'ai beaucoup de respect pour les fabricants chinois et la manière dont ils font évoluer ces technologies. Je pense qu'ils sont les plus compétitifs au monde.
Mais depuis, sa Gigafactory, comme elle est surnommée, connaît des ratés. Tesla a dû rappeler cette semaine plus de 100 000 véhicules pour un problème technique. C'est le troisième rappel depuis le mois d'avril, sans compter les 500 000 Tesla produites en Chine et rappelées déjà l'an dernier. Autre problème, l'usine censée assembler 1 000 véhicules par jour et exporter notamment vers l'Europe est au point mort depuis le confinement de Shanghai fin mars. Seule la moitié des 20 000 ouvriers de l'usine a pu reprendre le travail, mais ils doivent dormir sur place pour cause d'épidémie de Covid. Mais Tesla croit toujours dur comme fer au marché chinois et prévoit d'ouvrir une deuxième usine à Shanghai dès cette année. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et preuve que la production reprend, selon l'agence de presse Chine Nouvelle, 4000 voitures Tesla sont parties dimanche de Shanghai direction la Belgique.
On en vient à cette première en Europe. L'Espagne veut instaurer un congé menstruel pour les femmes victimes de règles douloureuses.
Le gouvernement de gauche veut, je cite, en finir avec un tabou. L'arrêt maladie temporaire serait intégralement financé par l'État. Il devra être signé par le médecin traitant sans limite de durée.
Paillettes, bijoux, robes, smoking et tapis rouge, la Côte d'Azur accueille le gratin du cinéma mondial.
Avec l'ouverture hier du 75e Festival de Cannes, une soirée riche en émotions à laquelle a assisté Marie Jiquel pour Europe 1.
Un début rock'n'roll, il fallait avoir l'estomac bien accroché pour rencontrer les zombies du film d'ouverture coupé de Michel Hazanavicius avec Bérénice Bejo et Romain Duris.
Tu me fais chier depuis le début des répétitions, alors maintenant tu fermes ta grande gueule de con.
De l'humour potache et quelques bonnes giclées de sang au menu de cette comédie gore. Mais Cannes a eu évidemment son instant glamour, les célébrités ont foulé le tapis rouge pour rejoindre la cérémonie d'ouverture conduite par l'actrice Virginie Efira. Une cérémonie marquée par un invité surprise.
Et le dictateur mourront.
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a pris la parole depuis Kiev, citant les films Apocalypse Now et Le Dictateur pour dénoncer l'invasion russe dans son pays. Cérémonie rythmée aussi par la Palme d'Or d'honneur décernée à l'acteur américain Forest Whitaker et par le discours sous forme de leçon d'humilité du président du jury Vincent Lindon.
J'ai que des premières fois, c'est la première fois qu'on se lève pour moi.
Toute cette famille du cinéma se retrouve dans un peu moins de 10 jours pour l'annonce du palmarès.
Marie Jiquel est aujourd'hui sur la montée des marches du Palais des Festivals Tom Cruise. L'acteur viendra présenter Top Gun Maverick, deuxième volet du film à succès sorti en 1986. Un film européen qui sortira en salle dans une semaine tout pile.
Et qui est très attendu. Et on va reparler du premier volet dans le jour où avec Laure d'Autriche d'ici une quarantaine de minutes. Merci beaucoup Alban Leprince pour ce journal.
5h08, c'est l'heure des courses de Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 311 Jupiter du Corta. Après s'être imposé dès ses débuts à l'attelée le 20 mars à La Rochelle-Châtelaillon, son entraîneur William Bigeon l'a aussitôt orienté dans la discipline du trot monté où il s'est classé bon second le 8 mai sur l'hippodrome du Mans pour sa première avec la selle sur le dos. Visiblement doué, il devrait dès cet après-midi ouvrir son palmarès dans cette spécialité avant de pouvoir rivaliser ensuite avec les meilleurs de sa génération. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la troisième course, le numéro 11, Jupiter du Corta.
Jupiter du Corta, le numéro 11. Merci beaucoup Thierry Léger et à tout à l'heure pour vos pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et le pressing chaque matin ne serait pas ce qu'il est sans la présence autour de cette table de Martin Lange.
C'est trop. Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Bonjour, bonjour Martin, quelle introduction. J'en ai pas eu des comme ça pour moi. On commence avec vos journaux. Et ce visage qui revient sur de nombreuses unes, celui de la Première Ministre Elisabeth Borne à Matignon, l'histoire secrète d'une nomination, titre Le Parisien aujourd'hui en France, dont l'article promet une succession de coups de théâtre, rien que ça. Elisabeth Borne s'installe, Macron prépare la suite, peut-on lire en une du Figaro, alors que les deux têtes de l'exécutif ont partagé hier un déjeuner où il a été évoqué la composition du futur gouvernement. Il sera dévoilé dans les prochains jours. En attendant, il serait judicieux de se pencher sur le changement climatique. Ça urge un peu beaucoup, titre Libération, avec pour illustration un portrait d'Elisabeth Borne entourée de pâquerettes, de montagnes et d'éoliennes. Borne, l'écolo-molo, juge le quotidien. Omblin, on commence avec vous.
Dans 800 jours, la France accueillera les Jeux olympiques. Et ce matin, le Parisien s'est penché sur un autre défi que celui sportif, naturellement, le défi alimentaire. Il va falloir en nourrir des gens à partir de juillet 2024, athlètes et spectateurs jour et nuit. Et rien que pour les 15 000 athlètes, plus de 2 millions de repas seront servis. Les nourrir, ok, mais pas n'importe comment. Il faudra que ce soit bon, local, responsable. La qualité de la cuisine française va une fois de plus rayonner dans le monde entier. Et une cuisine pour tous, quel que soit le régime alimentaire, la culture ou la religion. Des nutritionnistes, des labels, des ONG et des chefs travaillent d'arrache-pied, main dans la main, pour élaborer des recettes. Les chefs vont élaborer d'ailleurs les cartes du village des athlètes et des sites de compétition. Ils comptent mettre l'accent d'ailleurs sur des recettes plus végétales. Il faut que ce soit bon donc, et local, des plats cuisinés avec 80% de produits français. Et même un quart de l'approvisionnement se fera à moins de 250 km des sites. Le reste, hein, café, cacao, évidemment, par exemple, sera importé. Mais une attention toute particulière sera portée sur la provenance. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est bio? Qui dit local dit produits typiques des régions. Quand on est Île-de-France, on va se régaler avec un brie de Meaux. À Marseille, on va vous servir du poisson, voilà, une bouillabaisse par exemple. Bon,
c'est léger ça. Ouais.
L'été,
c'est avant le sport.
Ouais. Mais ça se mange tout en toutes circonstances, la bouillabaisse de Marseille. Bon, disais-je, local et responsable avec une réduction drastique de l'utilisation du plastique. Ce sera de la vraie vaisselle pour la restauration sur place. Vous trouverez des verres consignés, les gourdes seront privilégiées. Le sponsor des JO Coca-Cola étudie la possibilité de mettre des distributeurs de boissons. À disposition. Et puisqu'on parlait plutôt des chefs qui planchent sur les recettes, hein, l'idée est évidemment de ne pas surproduire et donc de cuisiner avec des produits qui peuvent être réutilisés s'ils n'ont pas été consommés la veille. Voilà, nourrir le monde, l'autre enjeu des JO 2024, c'est dans le Parisien.
Merci beaucoup, Ombline. Martin, quel article avez-vous sélectionné ?
Oui, on vous en parlait en début de semaine. Renault quitte définitivement la Russie. Hein. Le constructeur français a trouvé un accord avec le Kremlin pour lui céder tous ses actifs contre un rouble symbolique. Oui. Alors au-delà de la polémique, se pose désormais une question. Que vont devenir ces usines ? Eh bien le maire de Moscou a une petite idée. Sergueï Sobyanin veut nationaliser l'atelier Moscovite pour reprendre la production d'une marque légendaire. Ce sont ces termes, hein, la Moscovite, en bon français, symbole de l'Union soviétique, hein, disparue en 2001. Alors la Moscovite, vous l'avez sûrement vu dans des films, allez voir sur internet, hein, ça vous rappellera des souvenirs. Ouais. Ces modèles les plus connus, la 408 ou la 412, attention, hein, ce n'est pas des Peugeot, rien à voir. Elles ont connu leur heure de gloire dans les années 70, au point que la marque a même ouvert une filiale en Bulgarie, à Lovetch, où aujourd'hui on plaisante du retour de ces antiquités, selon le Courrier international. Le maire de Moscou estime que son projet permettrait de sauver l'emploi de milliers de travailleurs russes. Mais il y a indéniablement un côté symbolique derrière cette renaissance, alors que Vladimir Poutine n'a jamais caché que la disparition de l'URSS était la plus grande catastrophe du siècle dernier.
Alors évidemment, c'est une renaissance qui n'a pas manqué de faire réagir, Martin.
Oui, et rarement pour en dire du bien. Pour la chaîne privée Nova TV, c'est comme si l'histoire revenait en arrière. Rien ne symbolise mieux l'URSS que la Moscovite. Et comme il est difficile de critiquer la parole officielle en Russie, il faut aller voir du côté des Bulgares pour lire les commentaires les plus drôles. Cette journaliste, par exemple, se souvient des affreuses odeurs de gaz d'échappement qui la rendaient malade. Ça ne s'est jamais arrêté. J'ai 47 ans aujourd'hui et je ne pensais que plus jamais je ne respirerais l'air de ces années-là, conclut-elle. Un article qui a suscité des dizaines de réactions, certaines ironiques, comme cet homme qui dit avoir passé des heures sous la sienne à la bricoler. D'ailleurs, vous savez comment on enterre un propriétaire de Moscovite ?
Ah. Comment on enterre ?
On enterre.
Non.
Eh bien, debout parce qu'il a passé sa vie couché sous sa voiture. Mais d'autres commentaires sont beaucoup plus positifs. C'est grâce à elle que je suis devenu ingénieur ou encore capable de rouler sur les pires routes. Un peu.
Ouais.
Ah, c'est difficile au démarrage quand même.
Mais ça, c'est une Moscovite ?
Non, je suis pas sûr, mais.
Il faut tourner la manivelle devant.
Je vais être honnête.
Moscou. C'est une Ford T, en fait.
Moscou veut relancer la Moscovite, symbole de l'ère soviétique, c'est dans le Courrier international.
Merci beaucoup, Martin. Effectivement, la fiabilité des voitures russes a toujours été assez légendaire. J'ai choisi pour ma part un article de Libération qui s'intéresse à un mal endémique, surtout à cette période de l'année où il nous faut déclarer nos revenus. Et là, je suis certain qu'il y a des dizaines de personnes derrière le poste qui viennent de lâcher un merde très sonore, accompagné d'un. Il faut
pourquoi
que je m'y
mette. Vous aussi, vous avez oublié ?
Ouais, absolument. Ouais. Je veux parler évidemment de la phobie administrative, cette expression popularisée en 2014 par l'ex-secrétaire d'État Thomas Thévenoud, qui avait été contraint de démissionner après seulement 9 jours au gouvernement à la suite de révélations sur le non-paiement de ses impôts. Le monsieur avait tellement bien vendu le concept qu'il en a même déposé la marque auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Non, ce n'est pas une blague. Phobie administrative est une marque. Bien. C'est surtout un mal avéré, souvent confondu à tort avec une procrastination extrême. Ce n'est pas un état ou une activité qui déplaît, comme remplir sa déclaration de revenus ou ouvrir le courrier. Non, la phobie présente des symptômes symptômes très forts. C'est une peur panique qui, de l'aveu d'une psychologue citée dans l'article, touche de plus en plus de personnes. Combien exactement ? Impossible à savoir, il n'existe pas de données officielles sur le sujet. En revanche, selon un sondage YouGov publié en décembre dernier, la gestion administrative serait source d'angoisse pour 37% des Français, dont près de la moitié des 18-34 ans. Ce n'est pas rien et ça n'a évidemment pas échappé à de petits malins, des sociétés privées qui surfent sur cette phobie administrative en proposant des services payants pour permettre aux usagers d'accéder aux aides sociales auxquelles ils sont éligibles. C'est par exemple le cas du site mesalloc.fr ou encore de l'entreprise grenobloise Wizbly, qui met à disposition un simulateur gratuit, un algorithme qui, en fonction de votre situation, vous indique si vous pouvez bénéficier de telle ou telle prestation comme le RSA ou les APL. Je précise à nos auditeurs qu'un outil identique et absolument gratuit est proposé par le ministère de la Santé. C'est en fait dans un second temps que ces entreprises se rémunèrent en vous proposant de réaliser les démarches administratives à votre place. Pour profiter de ce service sur mesalloc.fr, il faut débourser 29,90€ de frais d'inscription et payer la même somme chaque trimestre. Quant à Wizbly, les frais s'élèvent à 4% des aides que leurs clients perçoivent grâce à l'intermédiaire de l'entreprise avec un plafond de 9€ par mois.
Et quel est le profil des clients de ces sites?
Alors, principalement des étudiants, surtout pour Wizbly, qui inondent les réseaux sociaux de publicité ou de partenariats rémunérés avec des influenceurs comme Hugo Décrypte ou Léna Situation. Des pratiques qui ne sont pas du goût de tous. L'UNEF, le syndicat étudiant, juge inadmissible le fait que Wizbly utilise la détresse des jeunes pour leur soutirer le peu d'aide disponible. Quant à l'ANAS, l'association des assistants de services sociaux, elle estime, jurisprudence de la Cour de cassation à l'appui, que ces services sont tout simplement illégaux. Une plainte a d'ailleurs été déposée récemment, mais la CNAF, elle, la Caisse nationale d'allocation familiale n'a pas du tout la même analyse de la situation. Bref, c'est loin d'être clair. Et c'est justement ce flou qu'exploite ces services devenus pour beaucoup indispensables, tant l'idée de remplir un formulaire leur donne de l'urticaire. Démarches administratives, délégués impôts, beaucoup à la phobie. C'est le jeu de mots à lire ce matin dans Libération.
Vous avez fait votre déclaration ?
Non, toujours pas. Toujours pas non plus. J'ai pas eu le temps entre le début de la chronique.
Donc
un peu plus compliqué.
Moi non plus.
Que ça.
Voilà, donc on est tous les quatre.
On est mal.
On est mal. On va voir qu'on s'en occupe quand même. Merci Julien et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Elle n'a pas fait sa déclaration d'impôt, mais elle a plein d'infos. C'est Alban Le Prince pour le rappel des titres.
Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet face à la guerre. Déclaration de l'invité surprise de l'ouverture du 75e Festival de Cannes hier soir. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a comparé Vladimir Poutine au dictateur. En Ukraine, justement, procès inédit aujourd'hui à Kiev. Un soldat russe de 21 ans, Vadim Chichimarin, sera jugé pour crime de guerre pour avoir tué un civil de 62 ans qui circulait à vélo. Retour en France, la composition du nouveau gouvernement pourrait être annoncée dès aujourd'hui. Depuis hier, Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, multiplie les rendez-vous pour recruter son équipe. Et puis, bonne nouvelle pour le tennis français, Richard Gasquet a battu hier le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, en 8e de finale du tournoi de Genève. Victoire en 2-7, 6-2, 7-6.
Vos oreilles grandes ouvertes pour les initiatives en France. À présent, la chronique de celles et ceux qui innovent.
Bonjour Basile Lègre.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le cofondateur de Réglo, une marque de croquettes pas comme les autres puisqu'il y a zéro viande dans leur composition, ce qui à première vue est problématique vu que nos chats et chiens sont carnivores, sauf qu'à la place, vous mettez des insectes. Expliquez-nous.
Oui, exactement. Donc c'est bien ça en fait. Pour nourrir des chiens et chats qui sont carnivores par définition, comme vous l'avez dit, donc ce qui signifie qu'ils ont un système digestif beaucoup plus court que nous, omnivores, ou des lapins ou des chevaux. Donc ils ont besoin de protéines animales pour être en bonne santé. Et c'est ce que nous avons cherché donc avec les protéines d'insectes, qui sont des protéines extrêmement complètes, extrêmement concentrées en protéines, en vitamines, en acides aminés qui sont nécessaires à la bonne santé de nos animaux de compagnie et qui par ailleurs sont les protéines animales les plus durables. C'est-à-dire qu'élever des insectes va demander moins de ressources et in fine rejeter moins de gaz à effet de serre que d'élever n'importe quels autres animaux. On pense aux élevages conventionnels de poissons, de volailles, de bovins, etc.
Oui, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais nos animaux de compagnie sont d'énormes consommateurs de viande avec tout l'impact sur la planète que cela implique.
Oui, Oui, exactement. En fait, lorsque j'ai été bénévole à la SPA pendant mes études, je me suis aperçu que les chiens et chats consomment 20% de la viande qui est produite dans le monde. Donc c'est un chiffre qui est tout simplement énorme. Et notre but avec Réglo est donc de sensibiliser sur ce point, également d'apporter de la transparence, de la qualité sur le marché de l'alimentation pour animaux domestiques qui en manque un petit peu à nos yeux. Et donc, ce que nous cherchons à faire, non pas de culpabiliser les consommateurs de viande, mais tout simplement de montrer que des alternatives sont possibles et qu'elles sont vertueuses et durables.
Après, les marques de croquettes, en tout cas les plus connues, utilisent le plus souvent des morceaux impropres à la consommation humaine, non ?
Alors oui, ce qui se passe généralement, effectivement, c'est que ce sont des sous-produits issus de l'industrie de la viande qui sont utilisés, donc on va dire un petit peu recyclés pour nourrir nos animaux de compagnie. En revanche, leur provenance est tout à fait inconnue. Beaucoup de nourriture utilisent des sous-produits qui viennent directement d'Amérique du Sud, qui sont transportés par avion. Par ailleurs, ce sont des produits qui sont de très faible qualité. On parle vraiment de restes, de muscles, de tendons, de cartilages, etc., qui sont broyés pour créer de la farine animale. Et donc, face à ce constat et par ailleurs aussi à la demande des consommateurs, de plus en plus de marques utilisent de la viande fraîche ou bien même donc voilà de la vraie viande qui est propre à la consommation humaine. Et donc, ce que nous cherchons à faire avec Réglo, c'est une nourriture sans compromis pour évidemment la santé de nos animaux de compagnie, mais également la préservation de l'environnement. Et donc, on a trouvé la bonne combinaison avec les protéines d'insectes. Et par ailleurs, voilà, nous sommes les seuls en France à aller vraiment au bout de cette démarche de ne pas utiliser d'autres ingrédients d'origine animale.
C'est-à-dire
ce qui se fait habituellement dans la fabrication de croquettes, c'est donc d'utiliser, à l'étape de l'enrobage, donc après la cuisson des croquettes, d'utiliser des graisses animales, des graisses de volaille généralement, et d'autres produits issus de l'industrie de la volaille, très généralement, par des procédés un petit peu chimiques, on a des concentrés de foie de volaille qui sont extrêmement odorants, donc forcément que les chiens et chats aiment beaucoup. Eh bien, nous sommes les seuls en France à être parvenus donc, à nous passer de ces ingrédients. Donc d'une part, on remplace la viande dans les croquettes par des protéines d'insectes, et sur l'enrobage, nous utilisons donc des substituts végétaux, de l'huile de colza, et également des appétants d'origine naturelle et végétale, en fait, qu'on a été chercher dans l'industrie des croquettes végétariennes véganes, et qui donc fonctionne très bien, donne de super résultats, sans le coût pour la planète et sans soutenir l'industrie de l'élevage.
Alors on a bien compris, aucun produit d'origine animale dans vos croquettes, uniquement des insectes. Est-ce que les chats et chiens aiment bien et les digèrent correctement ?
Oui, tout à fait. Alors uniquement des insectes sur la partie ingrédients d'origine animale. Par ailleurs, on utilise tout de même des pois, de la pulpe de betterave, de la pulpe de chicorée pour la bonne digestion, pour les fibres, quelques vitamines et minéraux issus de végétaux pour la grande majorité, pour compléter la recette et avoir des formulations qui soient tout à fait saines, équilibrées et complètes pour la bonne santé donc, de nos amis les chiens et les chats. Et donc, je vous confirme, on a pris soin, en fait, d'avoir un cahier des charges très exigeant et donc d'avoir uniquement des ingrédients naturels, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun additif artificiel, aucun colorant, exhausteur de goût ou autre conservateur qui aurait subi un traitement chimique. Et donc, on a un produit qui est naturel, qui est fait uniquement à partir d'ingrédients qui ont été sélectionnés pour leur qualité nutritionnelle. Et donc, effectivement, tous sont très digestes et appréciés par les animaux de compagnie. Et par ailleurs, pour aller au bout de la démarche, donc on a cherché donc à avoir des protéines plus durables. Également, nous sommes passés des emballages en plastique au profit d'emballages papier recyclés et compostables. Et donc,
tout est fabriqué en France. Vraiment... Même les insectes sont produits en France.
Alors, une partie de nos approvisionnements provient de nos régions françaises, du nord de la France, de Nesle pour être précis. L'autre partie provient des Pays-Bas. Tout simplement, il s'agit de notre partenaire historique qui est en fait un pionnier en Hollande qui a pu nous fournir dès 2020, dès le lancement de l'activité. Et aujourd'hui, pour nous, la fabrication française est une évidence, ça ne suffit pas. On cherche à s'approvisionner le plus localement possible. Et ainsi, nous avons plus de 80% de nos ingrédients, protéines comprises, qui proviennent de nos régions françaises, pour toujours aller plus dans une démarche de consommation responsable et locale.
Où peut-on trouver vos croquettes ?
Alors, nos croquettes aujourd'hui sont disponibles exclusivement sur notre site internet, donc www.reglo.fr. ce qui nous permet de proposer un super rapport qualité-prix aux consommateurs, étant donné que nous vendons en direct. Et très bientôt, nous serons disponibles en magasin. Nous avons un premier accord de distribution avec Monoprix, qui est une enseigne pionnière et que nous apprécions beaucoup, qui va nous permettre de tester notre offre en magasin, et qui est un petit peu la suite logique pour nous de se rendre disponible donc auprès du plus grand nombre, parce que tout le monde n'achète pas sur Internet à l'heure actuelle. Et notre but étant de maximiser notre impact sur la santé des animaux de compagnie et également sur l'environnement, nous devons donc nous rendre disponibles auprès des Français.
Merci beaucoup Basile Lègre de nous avoir présenté Reglo, la marque de croquettes à base d'insectes. On vous souhaite beaucoup de succès et on vous dit à bientôt sur Europe 1.
C'est moi, très bonne journée, au revoir.
Et à la une, Anissa nous le disait il y a un instant, vague de chaleur hors norme sur le pays, un calvaire pour les travailleurs en extérieur. Nous serons sur un chantier près de Toulouse. Pas encore de gouvernement Borne, mais en attendant, les ex-ministres qui espèrent être reconduits sont sur le terrain pour les législatives. Lionel Gougelot a suivi Bruno Le Maire et Gérald Darmanin en campagne dans le Nord. Et puis à la fin du journal, Roland Garros et ce coup de projecteur sur celui qui incarne peut-être le renouveau du tennis français. Il s'appelle Gabriel Debru, 16 ans.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ça ne vous a pas échappé, nous traversons une vague de chaleur et selon Météo France, il pourrait même s'agir du mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Hier par exemple, il faisait 32 degrés à Toulouse, 9 de plus qu'un mois dit normal. Des températures très difficiles quand on travaille dehors. Benjamin Péter s'est rendu sur le chantier d'un couvreur en périphérie de Toulouse.
Il faut absolument finir aujourd'hui le tour en zinc de cette fenêtre de toit pour éviter toute infiltration. Mais entre les tuiles qui emmagasinent la chaleur et le fer à souder, l'organisme de Segundo est mis à rude épreuve.
Il y a 30 ans normalement, il y avait le soleil et le fer à souder, ça arrive à 40-42 degrés. Hein.
Il faut boire beaucoup.
Boire beaucoup, bien sûr, sauf que sur le toit, il n'y a pas de réfrigérateur pour tenir les bouteilles au frais. Alors Segundo a une technique bien à lui.
Il est caché l'eau. Il y a le frigo ici. Ah voilà, il y a ma bouteille sous la tuile. Comme ça, il est fraîche.
Ici, on a l'habitude de ces températures élevées, mais plutôt au cœur de l'été. Laurent Aubel, le patron des couvreurs occitans, ne s'attendait pas à devoir adapter le rythme de ses salariés dès le mois de mai.
On s'est fait un petit peu surprendre par ces températures estivales, alors qu'il y a encore quelques semaines, on avait dégelé. Il faut composer avec. Tous les ans, c'est pareil, même si cette année, c'est effectivement un petit peu tôt. Obligatoirement, on repasse en horaire aménagé, c'est-à-dire qu'on démarre plus tôt. On essaye de s'arrêter plusieurs fois dans la journée pour s'hydrater. La pause du midi est raccourcie également, de manière à pouvoir quitter plus tôt pour éviter la grosse canicule du milieu d'après-midi. Idéalement, il faut être parti du chantier à 4h max. Ouais.
Et ce qu'il redoute, c'est que ces températures estivales dès le printemps n'annoncent des températures caniculaires en juillet et août. À Dox, près de Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Et ces dômes de chaleur sont de plus en plus fréquents à travers le globe, en partie à cause du dérèglement climatique.
Oui, l'action pour le climat, la transition écologique, d'ailleurs, c'est sur la feuille de route d'Elisabeth Borne. La première ministre continue de plancher sur la formation de son gouvernement. Double difficulté, réussir en même temps à plaire à l'aile gauche sans froisser les ministres venus de la droite et trouver des profils forts politiquement, mais qui ne sont pas candidats aux législatives.
En attendant, et sans savoir s'ils seront reconduits, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire mouillent le maillot pour faire gagner la majorité.
Oui, ils sont allés hier à soutenir Violette Spilbou, principale opposante à Martine Aubry à Lille. Le reportage de Lionel Gougelot.
Dans la vie politique, ce que je préfère, ce sont les campagnes électorales.
En bras de chemise, micro à la main, devant la centaine de militants, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ministres en suspens, mais toujours en mission pour reconduire la majorité à l'Assemblée nationale.
Le débat est assez simple avec les électeurs. Soit ils veulent garder Elisabeth Borne et le gouvernement du président de la République en responsabilité, ou alors ils veulent une aventure. Mais comme dirait le film, l'aventure c'est l'aventure et ce sera moins drôle qu'avec Jacques Brel, hein, Mélenchon, je vous le dis tout de suite.
Jean-Luc Mélenchon, cible privilégiée des deux poids lourds du gouvernement.
Jean-Luc Mélenchon, il ne sera pas Premier ministre. Nous avons une nouvelle Première ministre. Elle s'appelle Elisabeth Borne.
Elisabeth Borne, chef naturel de la majorité dans cette campagne à venir, selon Bruno Le Maire.
Elle a les qualités d'entraînement, elle a les qualités de leadership, elle a les convictions nécessaires pour porter une majorité présidentielle. Donc je suis sûr qu'elle va le faire dans les jours qui viennent, une fois encore, avec cœur et efficacité.
Un vrai leadership pour la victoire, c'est ce qu'espèrent également les militants de La République En Marche.
On le verra très très vite, mais en tout cas, on n'a que des faisceaux positifs autour de sa nomination. Je pense que ça va très bien se passer.
Une femme, et qui en plus a un passé de femme de gauche, donc au niveau social, pour moi c'est un atout.
Mais plus qu'Elisabeth Borne confie un élu, c'est surtout Emmanuel Macron que l'on veut faire gagner à nouveau. Marc Ambaral, Lionel Gougelot, Europe 1.
L'actualité à l'étranger à présent. C'est à 8h ce matin que la Finlande et la Suède déposeront officiellement leur candidature pour rejoindre l'OTAN.
Avec le feu vert à une majorité écrasante de plus de 95% du Parlement finlandais, tout est en place désormais pour l'arrivée simultanée des demandes d'adhésion des deux pays au siège de l'Alliance à Bruxelles.
En Ukraine à présent, la bataille de Mariupol est sur le point de s'achever.
Oui, épuisés par des semaines de combats et de sièges, les soldats ukrainiens ont commencé à se rendre. 260 combattants ont rendu les armes et se sont constitués prisonniers.
Aux États-Unis, après l'attentat de Buffalo ce week-end, Joe et Jill Biden, pardonnez-moi, se sont rendus hier dans cette ville du nord des États-Unis.
Où Joe Biden a dénoncé avec véhémence le poison du suprémacisme blanc et qui a condamné ceux qui le répandent dans les médias notamment. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. On a vu un Joe Biden ému, secoué par cet attentat.
Oui, le président a d'abord commencé par énumérer le nom des victimes, 10 vies fauchées dans un supermarché un samedi après-midi. Des mots de réconfort aux familles avant de dénoncer la haine qui mine l'Amérique et les attaques fréquentes contre les Juifs, les Hispaniques et les Afro-Américains.
Ce qu'il s'est passé ici est clair. Du terrorisme intérieur. Le suprémacisme blanc est un poison. C'est assez. Ce venin, cette violence ne peuvent pas être l'histoire de notre époque.
L'occasion aussi pour Joe Biden de dénoncer sans les nommer ceux qui diffusent des théories comme celle du grand remplacement, idéologie évoquée par l'auteur de la tuerie de Buffalo pour justifier son acte.
J'appelle tous les Américains à rejeter ce mensonge et je condamne tous ceux qui le répandent pour obtenir du pouvoir, des voix ou de l'argent. Ceux qui prétendent aimer l'Amérique mais ne la comprennent pas ont donné trop de combustible à la peur et à la haine.
Comme après chaque tragédie, le président a de nouveau appelé à la régulation des armes d'assaut, projet toujours bloqué au Congrès par le Parti républicain.
La correspondance d'Alexis Guillot aux États-Unis pour Europe 1.
On revient en France avec cette mauvaise nouvelle pour le portefeuille de 2,5 millions de Français, tous ceux qui possèdent un 2 roues.
Les plus de 125 cm3 devront bien passer le contrôle technique à partir du 1er octobre. C'est une obligation européenne au départ. Emmanuel Macron avait repoussé face à la colère des motards. Ce contrôle technique, il doit permettre de réduire le bruit, le niveau de pollution et la sécurité. Il faudra compter entre 50 et 70 euros rien que pour ce contrôle. S'ajoute à cela pour les détenteurs de deux roues, les éventuels PV, l'assurance et le stationnement.
On vous en parlait ici même, hier dans ce journal. Le tennis français est à la peine, mais on a peut-être trouvé la relève.
Oui, on croise les doigts, retenez bien ce nom. Gabriel Debrus, 16 ans seulement. Il joue aujourd'hui son deuxième tour de qualification à Roland Garros, voilà qui apporte un peu de fraîcheur sur le tennis tricolore. Son portrait est signé Axel May.
Son père, sa mère, son grand frère, tous jouent à un très bon niveau au tennis. Mais Gabriel Debrus est en train de devenir la coqueluche de la famille. À 5 ans, il commence à taper la petite balle jaune à Grenoble et le voici 11 ans plus tard, classé 781e mondial à l'ATP, sur le point de disputer le deuxième tour des qualifications à Roland-Garros après avoir battu au premier tour un compatriote, Arthur Fils, lundi.
Je suis jeune et première participation dans ce tournoi et pouvoir déjà gagner un match contre un ami à moi, c'est incroyable. Et en plus se qualifier au deuxième tour, maintenant j'ai mes chances comme il a ses chances et ça va être un gros match.
Le Slovaque Norbert Gombauch, 115e mondial, 31 ans, soit presque le double de son âge, sera donc le prochain adversaire de Gabriel Debrus. Désormais dans le giron fédéral, l'Isérois suit ses cours de première à distance, prépare le bac français et continue sa croissance.
Je fais du 46,5 et taille je fais 1,94. Mais j'espère pas dépasser les 2 mètres. Pour les déplacements, les 2 mètres c'est encore un peu plus compliqué.
Quand on lui demande quels sont ses objectifs cette année, le jeune Debrus, conscient qu'il n'a que 16 ans et encore tout à apprendre chez les seniors, répond « gagner un tournoi du Grand Chelem Junior ».
Axel May du service des sports d'Europe 1. 46,5, 1,94 m. 2 mètres, ceci dit, c'est bien pour servir, ça peut aider. Autre lueur d'espoir, la victoire hier de Richard Gasquet à Genève. Il a battu le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev. Il va en quart de finale. Et là aussi, c'est la meilleure des préparations avant Roland-Garros, dont Europe 1 et Radio Officielle.
Et c'était le journal de Lénaïc Monnier. Merci beaucoup Lénaïc. On passe aux courses hippiques. Les pronostics du quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet, un mini quintet plus, puisqu'il réunit il y aura seulement 13 partants avec un favori incontournable, le numéro 9, Diablo de Caponnet, irréprochable depuis de nombreux mois à ce niveau à Vincennes, et la manière avec laquelle il a remporté ses 2 dernières victoires me laisse à penser qu'il ne devrait avoir aucune difficulté à réaliser la passe de 3. L'opposition sera constituée par les numéros 5, Epsom Derfray, deuxième de mon favori le 26 mars à Vincennes, 3, Fine Colline, visiblement au mieux et qui vient d'échouer du minimum dans cette catégorie le 7 mars à Vincennes, et le 13, Décoloration, idéalement engagée au plafond des gains et avec laquelle ce sera une nouvelle fois une question de sagesse au départ. Enfin, les numéros 7, Victor Ferme, 4, Écho de Champ-le-Scie, 1, Chaco Jazz et 8, Crack Monnaie sont autant de possibilités pour conclure à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 9, 5, 3, 13, 7, 4, As et 8.
Vous le savez, les pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où, à présent, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'était hier soir que s'est ouvert le Festival de Cannes. On vous en parlait dans le journal. Et c'est aujourd'hui que sera diffusé en avant-première le film Top Gun Maverick avec Tom Cruise, film dont Europe 1 est partenaire. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Alors Laure, on revient avec vous sur le précédent volet. Un film qui a fait sensation en France en 1986. Je veux parler évidemment de Top Gun.
Oui, Top Gun, qui raconte la vie de la patrouille d'élite de l'armée américaine, ouvre le festival de Deauville en 1986. Le film est alors depuis 3 mois un énorme succès aux États-Unis. Récit à l'époque du journaliste d'Europe 1, Michel Pascal.
Filmé avec maestria par Tony Scott et qui est le succès de l'été 86 aux États-Unis, loin devant tout le monde. Le message positif du film, son exaltation des valeurs patriotiques, son humour, ont fait mouche dans l'Amérique de Reagan et Tom Cruise, le héros, a succédé à Stallone dans le cœur du public.
En 1986, c'est ce film qui rend populaire l'acteur Tom Cruise.
Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Je vous envoie vous battre contre les meilleurs. Oui, vous allez à Top Gun. Pendant 5 semaines, vous allez vous mesurer aux meilleurs pilotes de chasse du monde. Messieurs, bonne chance quand même. Merci de votre. Merci.
Le producteur racontera plus tard que pour convaincre Tom Cruise de faire le film, ils l'ont fait monter à bord d'un avion de l'armée américaine. Ils lui ont fait faire des loopings, des cascades. Et après ça, Tom Cruise a voulu faire le film. Ça lance effectivement sa carrière. Et avec ce film, le réalisateur Tony Scott devient, lui, prisonnier des blockbusters. Il ne fera dans sa vie pratiquement que des films d'action spectaculaires.
Et cet énorme succès qu'est Top Gun inspire au-delà du cinéma alors.
Oui, le monde se prend à rêver de devenir pilote de chasse. L'actuel patron de la NASA, Jim Bridenstine, expliquait l'année dernière que c'est ce film qui a déterminé sa carrière professionnelle.
D'ailleurs, quand j'étais en classe élémentaire, j'ai vu le film Top Gun. Et c'est là que j'ai décidé de devenir pilote dans la Navy.
Et comme si l'expérience de Tom Cruise dans Top Gun l'avait marqué à vie, l'acteur américain prévoyait de tourner il y a quelques mois quelques scènes pour un prochain film à bord de la Station Spatiale Internationale, donc en apesanteur à 400 km au-dessus de nos têtes. Et le patron de la NASA expliquait en 2021 que tous les regards étaient tournés vers Tom Cruise.
Tout le monde me parle de Tom Cruise. Oui, il sera le prochain visiteur de la station spatiale pour y faire un film. Et on va tout faire pour l'aider.
35 ans après le premier film Top Gun, Tom Cruise revient donc aujourd'hui dans la peau du pilote qui n'a pas peur du danger, mais le jeune prodige a laissé la place à une sorte de vétéran prêt à montrer aux jeunes qu'il n'a pas perdu la main.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant sur Europe 1, la nouvelle traduction du titre d'un célèbre roman de l'écrivain britannique Joseph Conrad.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h43 sur Europe 1, excellent début de matinée à tous. C'est aujourd'hui que la maison d'édition Autrement réédite le célèbre roman de l'écrivain britannique Joseph Conrad. Roman qui raconte l'histoire de l'équipage du Narcisse. Il était intitulé à l'origine en 1897 « The Nigger of the Narcissus » et traduit en français « Le nègre du Narcisse ». Or, pour cette nouvelle publication, le mot nègre a été effacé et vous trouverez désormais ce livre en librairie sous le titre « Les enfants de la mer ». Alors faut-il éliminer ce mot lourd de sens dans toutes les œuvres littéraires? Eh bien on en parle, Omblin, avec votre invité.
Bonjour Michel Vievorka.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes sociologue et vous êtes notamment l'auteur du livre « Alors Monsieur Macron, heureux » disponible aux éditions Rue de Seine. Dans ce livre, vous consacrez un chapitre sur la cancel culture. En plus d'effacer le mot nègre du titre du livre de Joseph Conrad, les éditions Autrement ont fait le choix de le supprimer dans le roman, sauf quand, lorsqu'il semblait être utile, voire indispensable. Que pensez-vous de cette démarche ?
Bon, écoutez, elle est étrange, parce que ou bien on le supprime, ou bien on ne le supprime pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Utile ou indispensable ? Mais au-delà de ça, on est dans une période où ce que les Américains ont appelé la cancel culture, la culture de l'annulation, se développe avec des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que ça nous permet, dans certains cas, de prendre conscience de certaines choses. Je vous en donne un exemple très français. Moi, j'ignorais, il y a encore quelques années, que Colbert avait eu un rôle important dans le fameux code de l'esclavage. Bon, bah, que la cancel culture, sur l'occasion de demander qu'on supprime toute référence à Colbert, ça, je ne peux pas l'accepter. Qu'elle attire mon attention sur cette face-là du personnage, c'est très bien. Alors là, il y a déjà aux États-Unis, ça nous vient des États-Unis, il y a un mouvement vraiment puissant pour qu'on n'utilise pas le mot « nègre ». Dans les universités en particulier, il y a des professeurs qui ont eu les pires ennuis pour avoir voulu l'utiliser en le contextualisant, et non pas du tout pour en faire leur vocabulaire à eux, mais parce qu'on le rencontrait dans la littérature, comme à propos de ce livre. Alors la question, elle est, est-ce que l'on peut se passer du mot « nègre » Est-ce que même là maintenant, en vous parlant, je n'ai pas tort d'utiliser ce mot, alors qu'évidemment, il ne fait pas partie de mon vocabulaire. Alors, je crois, moi, que la difficulté, c'est de trouver un chemin convenable qui permette de montrer tout ce que ce mot véhicule d'infamie, de brutalité, de racisme et d'horreur comme ça, sans pour autant que l'on taise l'existence d'une œuvre ou l'existence de débats en d'autres temps. Parce que ça paralyse la connaissance. Si on n'a plus le droit de lire Joseph Conrad tel qu'il a écrit ce livre, c'est très dangereux. C'est vraiment une tension difficile à résoudre et je ne suis pas sûr que le choix des éditions autrement soit le bon.
Le mouvement dont vous faisiez référence, c'est le wokisme, hein, qui est souvent d'ailleurs associé au mouvement dont vous avez parlé également, celui de la cancel culture. Effacer, annuler pour réparer l'histoire, ce n'est pas, selon vous, une solution. Il faut recontextualiser pour permettre aux gens de se faire leur propre opinion, de comprendre, peut-être d'évoluer aussi.
Alors, il y a deux choses. Ce qu'on appelle le wokisme, ça vient du mot woke, c'est un mot de mauvais anglais, de mauvais américain, utilisé surtout par des noirs américains, au début, pour dire qu'il faut être conscient, qu'il faut s'engager, qu'il faut ne pas rester passif. Donc c'est un mot plutôt militant et positif. Et puis c'est devenu un mot très négatif aux États-Unis, et ça n'a été repris en France que sous sa forme négative, pour désigner en réalité toute cette culture dans laquelle, au nom d'une identité noire, on passe à l'intolérance, à une certaine violence, et à la cancel culture, c'est-à-dire à l'annulation. Alors ensuite, l'annulation... La cancel culture, c'est très grave. Je pense, moi, que ce qui est nécessaire, c'est la pédagogie, c'est l'explication, c'est la contextualisation. Et moi, je préfère qu'on me dise, ce livre de Joseph Conrad porte un titre inacceptable. Voilà le titre en anglais. Moi, j'aurais mis le titre en anglais, inacceptable, dans ma version française. Hein. J'aurais fait une page d'explication. Il y en a peut-être une, d'ailleurs. Non pas pour dire qu'on le met que quand c'est indispensable, mais j'aurais dit, voilà le débat, voilà les problèmes qui se posent, et j'aurais affronté le problème. Je vous parlais de Colbert il y a un instant. Colbert, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'on fasse disparaître sa statue, c'est que, par exemple, on la mette dans un endroit qui prête plus à réflexion, par exemple un musée, et qu'il y ait tout un ensemble d'explications. Donc, entre le tout ou rien de la cancel culture et ce que je propose, il y a quand même une certaine distance.
Les dix petits nègres d'Agatha Christie rebaptisés, ils étaient 10 il y a 2 ans. Le Grand Rex à Paris qui en 2020 également a déprogrammé la diffusion d'Autant en emporte le vent. Alors comment continuer à faire vivre des œuvres nées dans un certain contexte historique ou à une certaine époque sans offenser une partie du public? Est-ce que cette note au début des ouvrages suffirait?
Alors on peut trouver des choses plus fortes. On peut trouver une maquette avec une couverture par exemple en plus. Qui permettrait d'attirer l'attention sur le sens qui est fait. Donc, je pense qu'il faut être attentif à ce que demande un certain nombre de personnes. Que la cancel culture, elle n'est pas entièrement négative. Ça, c'est certain. Mais qu'il n'y a pas non plus à accepter l'ignorance, à accepter que disparaissent des hommes ou qu'elles soient totalement décontextualisées.
Elles peuvent avoir une portée politique aussi, ce terme peut avoir aussi une portée politique, ce qui est expliqué par les éditions Autrement, de conserver ce mot à certains endroits du roman et notamment dans des dialogues.
Oui, et puis bon, écoutez, moi je pense qu'il faut quand même respecter les œuvres telles qu'elles sont, voilà. On les publie ou on ne les publie pas. C'est, écoutez, on a voulu republier les pamphlets antisémites de Céline, il y a 3-4 ans. Et on a décidé de finalement pas le faire. Mais si on avait décidé de le faire, il fallait évidemment les publier tels quels. On n'allait quand même pas publier des pamphlets antisémites en les édulcorant. Donc, moi, je n'aime pas l'anachronisme, c'est-à-dire le fait d'appliquer à un objet comme un livre des catégories qui ne sont pas celles de l'époque où il a été écrit. Donc voilà, mais on peut faire preuve de pédagogie. Si un éditeur juge nécessaire ou utile de publier Joseph Conrad, mais qu'il le publie en expliquant bien la nature du problème. Et vous comprenez, cet éditeur, il s'expose à des difficultés, parce que des gens vont dire, quelle bande d'hypocrites, pourquoi il le garde, ce mot, à certains endroits et pas à d'autres. C'est quand même pas totalement satisfaisant. Moi, je serais plutôt partisan de ne pas céder à l'idée de tout annuler et d'expliquer en long, en large et en travers.
Merci beaucoup, Michel Vivorca, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes sociologue et je rappelle que votre dernier ouvrage, Alors Monsieur Macron, heureux, est disponible aux éditions Rue de Seine. Merci encore et bonne journée.
Au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
C'est à 8h précise que la Finlande et la Suède déposeront ensemble leur candidature pour rejoindre l'OTAN. Le président turc Erdogan le rappelle, il ne cédera pas et accuse les deux pays d'abriter des terroristes et de maintenir contre la Turquie un embargo sur les armes. Concernant la guerre, Moscou annonce la reddition de 265 soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie Azovstal de Mariupol. Ils seront échangés contre des prisonniers russes, affirme le ministère ukrainien de la Défense. Et puis connaîtrons-nous dès aujourd'hui la composition du nouveau gouvernement possible? Depuis hier, Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, multiplie les rendez-vous pour constituer son équipe. Elle a notamment déjeuné pendant plus de 3 heures avec Emmanuel Macron.
On prend à présent la direction d'une salle de cinéma.
Et pas n'importe laquelle, celle du Festival de Cannes où l'on retrouve Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Laurie, vous nous parlez ce matin d'un film à voir cette semaine au cinéma et qui a fait sensation hier soir sur la Croisette à Cannes.
Oui, ça s'appelle Coupé, c'est le nouveau film de Michel Hazanavicius. Ça a été présenté effectivement hier soir en avant-première et surtout en ouverture du 75e Festival de Cannes. Alors, c'est le remake d'un petit film japonais. C'était un film étudiant qui s'appelait Ne coupez pas, réalisé avec zéro budget et c'est juste dément. C'est l'histoire d'un réalisateur un peu raté, joué par Romain Duris, en tout cas résigné, qui se retrouve à réaliser un film de zombies à tout petit budget qui doit se faire en fait en un plan séquence en direct, c'est-à-dire qu'on ne coupe jamais la caméra.
Laurent, il devient Akira, Muriel, elle devient Natsumi, et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Par contre, rigole pas. Non, hey, je te jure, je te marre pas. C'est moi qui suis les grands mecs.
C'est mon film. Tu fermes ta gueule. Tu me fais chier depuis le début des répétitions. Alors maintenant, tu fermes ta grande gueule de con.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant ri au cinéma. Au casting, on retrouve Romain Duris, Bérénice Bejo, mais aussi Finnegan Oldfield ou encore Grégory Gadebois. Ce film, c'est une déclaration d'amour au cinéma, à toute l'industrie du cinéma. Comment est-ce qu'on fabrique un film, l'équipe de tournage en entier, c'est-à-dire du perchman au cadreur, en passant par la maquilleuse, les acteurs, le régisseur, la costumière. Mais c'est aussi une parodie très drôle de ces films de genre de série Z avec des zombies qui hurlent dans tous les sens, des films en sang qui hurlent aussi d'ailleurs, et de la profusion d'hémoglobine à tout va. Franchement, c'est un film différent, complètement barré, mais ça fait du bien.
Et puis Laurie, une comédie également avec Gérard Lanvin.
Oui, qui joue son propre rôle dans J'adore ce que vous faites aux côtés de l'humoriste Artus. C'est un film de Philippe Guillard qui avait d'ailleurs déjà dirigé Gérard Lanvin dans Le Fils à Joe ou encore Papy Sitter. Alors là, Gérard Lanvin joue son propre rôle, donc il s'apprête à tourner un film américain dans le sud de la France lorsqu'il rencontre Momo, son pisciniste, qui s'avère être un fan, un peu trop fan de l'acteur, donc très lourd et très collant.
Bonjour, j'ai réparé la piscine. Oula, vous avez chié dedans ou quoi?
Ouais, on a déjà dû vous le dire, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin. En plus petit?
Ouais, Gérard Lanvin en plus petit, ouais.
Mais non! Gérard!
GG, vous êtes tendu, hein? On dirait un vieux chien.
Allez!
Vous arrêtez jamais, vous?
Moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. Là, en face de moi, là, j'ai pas Gérard Lanvin. J'ai un Gérard.
sûrement, mais c'est pas le Gérard Lanvin. Make-up, hein, ça veut dire on se réveille.
Un maquillage.
Maquillage.
Artus est excellent, hein. Le duo fonctionne à merveille, c'est un vrai beau duo de comédie, c'est une bonne trouvaille, ils ne se connaissaient pas mais je crois qu'ils peuvent plus quitter. Et Artus est parfait dans ce rôle de fan envahissant, gaffeur, collant qui s'incruste partout. Écoutez-le justement me parler de son personnage.
Alors, je déteste ce mot parce que c'est vraiment le truc, le mot à la mode, tout ça, mais il est attachant, il a ce côté attachant et en même temps on a envie de s'en débarrasser, mais comme il est gentil, c'est compliqué pour Gérard Lanvin. C'est un enfant en fait, c'est vraiment, c'est pour ça qu'aussi physiquement on mange tout le temps des compotes et il a un sac à dos, c'est que c'est un enfant de 130 kilos quoi.
Donc voilà, donc je vous encourage à aller voir J'adore ce que vous faites au cinéma, si vous voulez voir Artus et Gérard Lanvin, à mon avis c'est un duo dont on va encore pas mal entendre parler. Et puis sachez que vendredi sera présenté au Festival de Cannes le nouveau film d'Arnaud Desplechin, c'est pour ça qu'il ne sort pas aujourd'hui. Ça s'appelle Frères et Sœurs avec Marion Cotillard et Melville Poupeau. Je vous en parlerai dans Clap samedi et puis surtout la semaine prochaine dans la matinale puisque c'est un très très joli film sur les rapports fraternels et ça est présenté à Cannes vendredi soir.
Et donc vos deux films coup de cœur de la semaine, c'est J'adore ce que vous faites, vous venez d'en parler, et puis Coupé de Michel Hazanavicius. Merci Laurie Choleva. Et on vous retrouve donc samedi entre 14h et 15h. Clap sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal et un procès très attendu.
Oui, le premier procès pour crime de guerre depuis le début de l'invasion de l'armée de Poutine en Ukraine. Il s'ouvre aujourd'hui à Kiev avec dans le box des accusés un jeune soldat russe de 21 ans accusé d'avoir tué un civil ukrainien non armé. Il encourt la prison à perpétuité. Ce procès intervient seulement 83 jours après le début des hostilités. D'où ces questions, peut-on juger un crime de guerre si rapidement alors que la guerre justement continue de faire rage à quelques centaines de kilomètres de là. Et puis n'y a-t-il pas un risque que ce procès se transforme en outil de propagande avec la tentation de faire un exemple pour tous les autres crimes commis par l'armée russe? On en parle dans une dizaine de minutes avec Emmanuel Daoud, avocat pénaliste qui intervient notamment à la Cour pénale internationale. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Ne cherchez pas dans la catégorie boys band, ils sont les recordmen de vente de disques. La partition des Backstreet Boys dans 20 minutes.
Désolé Anissa, j'ai...
Oui, vous avez coupé un petit peu trop tôt les Backstreet Boys.
Ouais. Ouais.
Vous avez 30 secondes pour la météo. Soleil de plomb pour ce mercredi.
Oui, bon, on a du soleil partout. On a quelques petites grisailles sur le Languedoc et la Côte d'Azur. Ce sont des entrées maritimes. Ça va très vite se dissiper. Ce matin, on a quelques petites grisailles aussi sur le Finistère, des passages nuageux. Mais c'est le soleil qui domine ce matin, en effet. Et puis, au fil des heures, le ciel va devenir de plus en plus laiteux, notamment à l'ouest. Les orages éclatent entre la Normandie et le Pays Basque. Et puis, dans la nuit, les orages arrivent jusque sur les Pays de la Loire. Et puis les Hauts-de-France, la région parisienne, des orages localement forts avec de la grêle et des rafales de vent. Ce matin, il fait déjà doux, 10 degrés à Vannes, 12 à Nantes, 14 à Belfort, 17 à Paris, 18 à Toulouse. Cet après-midi, on va frôler les 35 degrés dans le sud-ouest et certainement battre des records de température dans la vallée du Rhône.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Nous sommes le mercredi 18 mai. Il est 6h. L'inflation en France vous inquiète. Comparée avec l'Allemagne, elle est deux fois plus forte que chez nous, à tel point que nos voisins viennent désormais faire leurs courses en France. Nous serons dans un supermarché du Bas-Rhin dans un instant. Trois mois après le début de l'invasion, premier procès pour crime de guerre en Ukraine. Un soldat russe comparaît aujourd'hui devant un tribunal de Kiev. De quoi l'accuse-t-on exactement? Explication à suivre. Et puis même les meilleurs hôpitaux français n'échappent pas à la pénurie de soignants. Au CHU de Bordeaux, l'accès aux urgences sera désormais limité la nuit. Le SAMU se chargera de la régulation. Reportage à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté par Romain Noquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. L'Allemagne dépasse largement la France, sauf que cette fois, il s'agit d'inflation. 8,6% outre-Rhin contre 3,8% dans les rayons de nos supermarchés, presque du simple au double.
Prenez un paquet de pâtes par exemple. 80 centimes en moyenne chez nous, il coûte 2 euros aux Allemands.
À tel point que ces frontaliers sont désormais prêts à faire quelques kilomètres pour venir faire leurs courses en France, comme dans ce supermarché du Bas-Rhin où s'est rendue Mélina Fachin pour Europe 1.
Dans ce supermarché français, Cathy, caissière, voit de plus en plus passer des clients allemands.
On en a beaucoup plus et tous les jours. Je dirais 20 à 30% de plus que d'habitude. Bah, ils cherchent beaucoup l'huile, la farine.
En Allemagne, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 8,5% en un an. C'est plus du double qu'en France. Alors pour Harald, venir faire ses courses ici vaut clairement le coup.
L'inflation, on la ressent beaucoup chez nous. Les prix sont de plus en plus élevés. Tout est moins cher ici, par exemple le poisson ou le fromage. Mais de toute façon, je venais déjà en France pour faire le plein.
Puisque ce qui attire encore le plus les Allemands ici, et ça aussi c'est nouveau, c'est la station-service.
C'est 30 centimes de moins par litre.
Ça vaut le coup, je ne vis qu'à 10 km, donc je dois faire le plein ici une fois par semaine.
En quelques mois donc, la situation s'est inversée. Ce sont désormais les Allemands qui traversent le Rhin pour venir faire des économies en France. Erstein, Mélina Fachin, Europe 1.
L'inflation qui n'épargne aucun pays d'Europe, jusqu'à 6,1% supplémentaire dans la zone euro cette année. En moyenne, c'est les prévisions de Bruxelles qui anticipent les conséquences de la guerre en Ukraine.
Mais justement, pour aider Kiev, la France va intensifier ses livraisons d'armes. Engagement d'Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d'État ont échangé par téléphone hier. L'Ukraine qui organise aujourd'hui le premier procès pour crime de guerre depuis le début de l'invasion russe.
L'accusé s'appelle Vadim Chichimarin. C'est un soldat russe qui va comparaître devant un tribunal de Kiev. William Molinier, de quoi est-il accusé exactement ?
Eh bien, d'avoir tué un homme de 62 ans qui n'était pas armé, selon l'accusation. Les faits remontent au 28 février dernier, près du village de Choupakivka, dans le nord-est du pays. Ce soldat russe était avec quatre autres militaires à bord d'une voiture qu'ils avaient volée après que leur convoi a été attaqué. L'un d'entre eux, depuis la fenêtre, sans raison apparente, a ouvert le feu sur ce civil alors qu'il circulait à bicyclette sur le bord de la route.
Et William, que sait-on exactement du parcours de l'accusé ?
C'est un jeune soldat russe âgé de 21 ans. La télévision ukrainienne a diffusé l'image de son visage vendredi dernier lors de son audience de fixation au tribunal. Il est arrivé menotté, crâne rasé et habillé d'un survêtement gris. Il a dit être venu combattre en Ukraine pour soutenir financièrement sa mère. Sur les faits, il a reconnu avoir tiré sur la victime tout en expliquant n'avoir reçu l'ordre.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1 a noté que la Cour pénale internationale a annoncé hier l'envoi d'une équipe de 42 enquêteurs pour recueillir des preuves sur d'autres crimes de guerre en Ukraine. Une mission d'une ampleur inédite.
6h03 sur Europe 1. C'est le premier service d'urgence de la région Nouvelle-Aquitaine et il n'échappe pas à la pénurie de médecins. Le CHU Pellegrin de Bordeaux va fonctionner en mode dégradé à partir d'aujourd'hui.
Oui, énième exemple de la souffrance de l'hôpital public. Dès ce soir, 20h, vous ne pourrez plus vous présenter spontanément aux urgences. Avant, il faudra impérativement composer le 15. Une régulation pour pallier le manque d'effectifs. 40% des médecins de cet hôpital sont en arrêt de travail ou sur le départ, selon les syndicats. Notre correspondant Stéphane Place a rencontré le personnel et les usagers de l'hôpital.
Dans tous les cas, on est obligé d'appeler. Donc en soi, ils vont nous dire si ça nécessite ou non de se déplacer. Ça nous fait un gain de temps. Je trouve que c'est pas mal.
Ça ne me choque pas, à condition que ce soit hyper réactif.
Pas d'opposition de principe, mais quelques interrogations chez ces habitantes qui apprennent que l'on ne pourra plus se présenter ici aux urgences adultes du CHU sans avoir d'abord appelé le centre 15. Le professeur Philippe Revel est le chef du pôle des urgences.
Avant d'aller aux urgences, il faut que le médecin de ville ou les patients fassent le 15 pour avoir un contact avec un médecin régulateur qui leur confirmera la nécessité de venir aux urgences ou qui leur proposera éventuellement une autre option. Pour les horaires de nuit, c'est-à-dire sur le créneau 20h, 8h du matin.
Ce qui est à l'origine de cela, c'est le manque de médecins.
Ah, complètement. Manque de médecins et manque de personnel paramédical, infirmiers et aides-soignants. Un des effets du post-Covid, et beaucoup de nos collègues nous ont dit c'est trop dur, on arrête.
Fabrice Dumas, délégué syndical FO au CHU de Bordeaux.
Alors il y a régulation, mais il y a surtout fermeture des urgences. C'est ça qui nous inquiète le plus. Il y aura un interphone pour les gens qui vont se présenter physiquement, mais on se pose la question de savoir où vont finir ces patients, est-ce qu'ils sont vraiment traités et soignés dans les temps.
Et personne ne peut dire aujourd'hui combien de temps durera ce dispositif. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
L'accès limité aux urgences du CHU de Bordeaux à partir de ce soir, une situation qui dure depuis un mois et demi à Orléans, où la quasi-totalité du personnel de l'hôpital est en arrêt de travail ou en grève. 6h05, c'est un objet entré dans l'histoire du rock. Voilà, la guitare que vous entendez, celle de Noël Gallagher, brisée par son frère Liam, vient d'être vendue aux enchères, adjugée à 385 000 euros hier à l'hôtel Drouot à Paris. Un instrument cassé pour la petite histoire, un soir d'août 2009 dans les coulisses du festival Rock en Seine à Paris. Le concert est annulé et le groupe se sépare.
Une magnifique Gibson ES-35 de mémoire. Merci beaucoup, Romain Noquet, pour ce journal.
On passe au sport à 6h06.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange. Et on commence avec Sochaux qui se rapproche, Martin, de la Ligue 1.
Vous entendez l'ambiance hier soir au stade Charletti. Les Lyonnais sont venus à bout du Paris FC 2 buts 1 en barrage d'accession à la Ligue 1. Ils iront à Auxerre vendredi pour gagner le droit d'affronter le 18e de Ligue 1. Ce soir, du foot encore avec la finale de l'Europa League entre Francfort et les Glasgow Rangers. 150 000 supporters sont attendus à Séville.
Football toujours avec la polémique du moment.
Oui, elle concerne Idrissa Gueye. Le milieu du PSG a refusé d'arborer un maillot aux couleurs LGBT le week-end dernier. Un choix motivé par ses convictions religieuses. Dans la tourmente, le Sénégalais a reçu hier le soutien de son président Macky Sall, mais pour Johan Lemaire, un président de l'association Football Ensemble, l'attitude du joueur du PSG est incompréhensible.
Il avait déjà fait le coup l'année dernière, on s'y attendait un petit peu, mais au moins cette année, j'ai le sentiment que le PSG ne l'a pas couvert. On ne te demande pas d'être gay, on ne te demande pas de militer, c'est juste un match de foot et montrer l'exemple aux gamins.
Johan Lemaire joint par Cyril de la Morinerie.
On passe au tennis, Martin, avec un rayon de soleil pour les Bleus.
Oui, la très belle victoire de Richard Gasquet hier à Genève contre le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, le russe de retour de blessure. Mais cette victoire fait du bien à 4 jours du début de Roland-Garros, le tournoi de la Porte d'Auteuil, justement, où les qualifications continuent. Hier, le jeune Enzo Cuoco a franchi le premier tour en battant l'Allemand Philippe Kohlschreiber, ex-16e mondial.
C'est une super victoire contre un joueur qui a le passé qu'on connaît, donc c'était pas évident de jouer contre lui. Je pense que j'ai passé plus de temps à le regarder à la télé que l'inverse, donc c'est une très bonne victoire et je suis content d'être passé.
Enzo Cuoco au micro d'Axel May.
Et enfin un mot de cyclisme.
Oui, je vous en parlais il y a un mois, Binyam Girmay, un premier noir africain vainqueur d'une grande classique, et bien l'Érythréen a récidivé hier en devenant le premier vainqueur d'étape sur un grand tour au Giro.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Vous restez avec nous dans un instant, le premier procès pour crime de guerre s'ouvre aujourd'hui à Kiev. On en parle dans un instant avec Emmanuel Daoud, avocat à la Cour pénale internationale. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Il est 6h10 sur Europe 1, votre invité Julien est avocat pénaliste au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale.
Bonjour Emmanuel Daoud.
Bonjour.
Merci beaucoup maître d'être en ligne avec nous alors que va s'ouvrir aujourd'hui à Kiev le premier procès pour crime de guerre depuis le début de l'invasion de l'armée de Poutine. Procès d'un jeune soldat russe accusé d'avoir tué un civil ukrainien non armé. Ma première question sera très simple. Peut-on juger sereinement un crime de guerre alors que la guerre justement fait toujours rage ?
Ça sera un challenge pour la justice ukrainienne. Elle sera sous les yeux de la communauté internationale et des juristes du monde entier. Ça s'est déjà produit par le passé avec des exemples qui ont été désastreux et où les droits de la défense n'ont pas été protégés et préservés. Il ne faut pas faire de procès d'intention à la justice ukrainienne. En tout cas, ça va être très compliqué d'imaginer qu'alors que la guerre fait rage, alors que des crimes ont encore lieu sur le territoire ukrainien, ce procès se passera en toute impartialité et en sérénité. Mais encore une fois, il appartiendra au juge ukrainien de démontrer que cela est possible.
Le risque, fondamentalement, c'est que ce procès soit utilisé à des fins de propagande ?
Oui, ce risque existe, mais vous savez, c'est un procès qui va se dérouler sous les yeux du monde entier. Est-ce que l'accusé aura eu accès au dossier ? Est-ce que ses avocats auront eu accès au dossier ? Est-ce qu'il aura pu préparer sa défense ? Est-ce qu'il aura pu faire citer des témoins ? Est-ce qu'il pourra s'exprimer ? Est-ce que l'audience durera suffisamment longtemps ? C'est une affaire criminelle. Une affaire criminelle, on ne l'expédie pas en 3 heures de procès. Donc, toutes ces questions-là vont être posées. Et est-ce que la défense pourra s'exprimer ? Est-ce que les avocats ou l'avocat de ce jeune militaire russe ne sera pas menacé, comme c'est arrivé dans d'autres pays, dans des situations similaires ? Tout ça, ce sont des questions qui trouveront une réponse sous les yeux du monde entier. Et si on fait un peu de prospective, et la justice ukrainienne et au-delà de la justice ukrainienne, l'État ukrainien qui frappe à la porte d'entrée de l'Union européenne devra démontrer dans un contexte extrêmement difficile évidemment, extrêmement tendu, extrêmement angoissant, qu'il est possible de juger ce militaire russe. Il m'a été posé la question également de savoir s'il n'était pas finalement très étonnant que l'on puisse avoir un procès aussi rapidement alors que la guerre fait rage.
83 jours depuis le début de l'invasion.
La question qui se pose pour un juriste, c'est est-ce que oui ou non l'accusation, donc le procureur ou la procureure, a des éléments dont il considère qu'il s'agit des preuves qui peuvent amener à la mise en accusation de cet accusé et à son jugement. Des preuves existent-ils ? C'est la seule question qui vaille.
Mais il y a aussi un élément immatériel, Emmanuel Daoud, ça s'appelle l'émotion. Oui. C'est les images de Boutcha ou encore de Mariupol qui, on est tous humains, finissent par s'ajouter aux éléments matériels, physiques, concrets qui, eux, sont utilisés lors d'un procès pénal.
Vous avez parfaitement raison. Ça va être très compliqué pour les juges de s'en départir, ça va être très compliqué pour les magistrats de faire abstraction de cela, de résister à la pression qui sera la pression de l'opinion publique ukrainienne qui certainement voudra des exemples. Et la question, elle se résume dans cette formule, est-ce qu'il s'agira d'un procès exemplaire ou d'un procès pour l'exemple ?
Si on met de côté Emmanuel Daoud ce procès un instant, est-ce que pour l'avocat pénaliste que vous êtes, cette guerre est différente des autres ? Est-ce que son ampleur médiatique change la donne ?
Elle change la donne quant à la collecte des preuves, parce que ce qui se passe pour les juristes, qu'ils soient avocats ou magistrats, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la justice pénale que des éléments de preuves sont collectées au quotidien, en temps réel, sur des faits qui sont susceptibles de recevoir la qualification de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et peut-être de crimes de génocide. Et donc tout ça se passe au jour le jour, en temps réel. Les magistrats ukrainiens sont formés, les enquêteurs ukrainiens sont formés, les services des alliés des Ukrainiens donnent des documents, vidéos, positions des brigades des régiments russes. Des ONG internationales ont envoyé des équipes, des vidéos sont collectées avec la volonté de pouvoir documenter des dossiers judiciaires. Donc oui, c'est une première et jamais dans l'histoire des crimes présumés ont pu être aussi rapidement et facilement documentés.
Et d'ailleurs la Cour pénale internationale, j'ajoute, a annoncé hier avoir envoyé une équipe de 42 enquêteurs en Ukraine, ce qui est du jamais vu dans l'histoire de la CPI. Emmanuel Daoud, juste pour qu'on soit bien clair, c'est quoi la définition exacte d'un crime de guerre ?
Un crime de guerre, c'est le fait d'avoir, par exemple, abattu un civil, ce qui est reproché à ce jeune soldat, abattu un civil de sang-froid alors qu'il ne représentait pas une menace. C'est par exemple abattre des soldats qui se sont rendus. C'est par exemple procéder à des viols. C'est par exemple bombarder de façon délibérée des maternités, des églises. C'est bombarder des immeubles d'habitation dont on sait qu'ils ne sont pas habités ou occupés par des soldats.
Voilà. Et qu'est-ce qui différencie un crime de guerre d'un crime contre l'humanité ?
Un crime contre l'humanité, c'est le fait d'avoir procédé à ces mêmes faits, mais de façon répétée sur tous les points du territoire et dans des proportions qui laisse avancer que tout cela n'est pas isolé.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, emploie lui le terme de génocide pour qualifier les crimes de l'armée russe. Est-ce que l'usage de ce mot est, selon vous, à vos yeux, pour l'heure justifié ?
Alors, si l'on se place du point de vue des Ukrainiens, et compte tenu de l'histoire russo-ukrainienne, et notamment de ce qui s'est passé sous Staline, où 6 millions d'Ukrainiens sont morts en raison d'une famine organisée par l'URSS de Staline, les Ukrainiens peuvent avoir le sentiment que ce qui se passe aujourd'hui est la volonté de l'État russe de vouloir anéantir la nation ukrainienne. Parce que c'est ça, un crime de génocide. C'est la volonté par un État de vouloir
éradiquer la population et la culture.
La population, une ethnie, une nation. S'agissant, si on prend de la distance, donc moi je ne mets pas en cause la perception des choses par les Ukrainiens, parce que vous et moi on est tranquillement installés dans notre siège et on ne vit pas cela au quotidien. Si on se place du point de vue du droit pénal international, qualifier ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui de crime de génocide, je ne vais pas employer des termes avec évidemment précaution, je ne vais pas dire prématurée, mais en tout cas, on n'en a pas la preuve absolue. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Daoud, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste, notamment à la Cour pénale internationale. Excellente journée à vous.
Vous restez avec nous dans un instant, la partition des Backstreet Boys sur Europe 1.
On termine avec votre partition, Blin, et cette question qui vous taraude. Que seraient les années 90 sans le phénomène boys band? Il y a 23 ans, les Backstreet Boys sortaient l'un des disques les plus vendus de la planète.
Ils forment incontestablement, Julien, le boys band le plus lucratif de l'histoire de la musique. Plus de 130 millions d'albums vendus aux quatre coins du monde. Ces cinq Américains ont marqué toute une génération de fans, des beaux gosses, calibrés pour bien chanter et bien danser. L'hystérie de masse débute au Canada, en Europe, avant d'atteindre les États-Unis.
Vous l'avez raconté ici, les premiers rouages de cette machine bien huilée sont assemblés au début des années 90.
Grâce aux Boys to Men qui constituent le prototype du boys band moderne et même avant ça, avec les New Kids on the Block, il se trouve qu'au commencement, celui qui s'est longtemps présenté comme le sixième membre des Backstreet Boys transporte des groupes grâce à sa société de jet privé. Il s'appelle Lou Pearlman, un homme au visage rond, le crâne dégarni, le teint rose.
Et ce Lou Pearlman s'inspire des succès des premiers boys band pour créer son propre groupe de garçons.
Oui, voilà, des garçons irrésistibles aux yeux des adolescentes installées à Orlando en Floride. Il décide simplement d'organiser un casting pour trouver les meilleurs candidats du coin.
Les Backstreet Boys sont donc fabriqués de toutes pièces.
Oui, selon un cahier des charges bien précis, comme vont le faire plus tard les créateurs des Spice Girls. Rappelez-vous, il y a la sportive, la sophistiquée, l'exubérante. Et bien là aussi, on choisit celui qu'on préfère, le grand frère, le latino, le bad boy. Ils ont entre 12 et 21 ans. Ils savent parfaitement maîtriser une chorégraphie et surtout, ils chantent. D'ailleurs, ne dites pas boys band, mais ensemble vocal, ils préfèrent, pour se détacher du stéréotype associé au groupe adepte du playback sur scène.
À peine leur carrière commençait, les Backstreet Boys mènent grand train.
Lou Pearlman n'est pas avare en vêtements, bijoux et resto chic, sauf qu'il oublie de mentionner que toutes ses dépenses sont retenues sur les revenus des chanteurs. Rapidement, chacun s'étonne des 12 000 dollars touchés par an, alors que le tiroir caisse tourne à plein régime. Démasqué, le manager qui en fait s'en était mis plein les poches est finalement remercié. Ils trouveront un accord plus tard en 2007. Cette mésaventure en aurait déboussolé plus d'un et pourtant, rien ne semble arrêter la success story des Backstreet Boys qui va atteindre son point culminant à l'aube du 21e siècle lors de la parution du troisième album Millennium. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we Backstreet Boys avec I Wanted That Way, extrait de l'album Millennium, sorti le 18 mai 1999. Ils sont en pleine tournée mondiale et passeront par Paris le 8 octobre.
Et surtout, ne dites pas que ce sont des
boys bands, c'est un ensemble vocal.
Merci beaucoup,
Ombline. Ils chantent, vraiment.
Oui, absolument. Vous restez avec nous dans un instant. L'ensemble vocal continue avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin, 6h27, excellente matinée avec Europe 1.
Et on vous retrouve demain à partir de 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.